Vous écoutez Radio Shalom sur le 94.8 FM.
94.8 FM.
L'ambassadeur d'Israël en France, Joshua Zarka, nous a rejoint dans les studios. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur.
Bonsoir.
Je suis très heureux de vous recevoir dans nos studios, d'autant plus que quand nous avons lancé notre invitation à l'ambassade, vous avez dit « mais moi je veux venir ».
Mais tout à fait.
Que je veux parler directement aux auditeurs de Radio Shalom à l'occasion des fêtes, et je viendrai leur parler directement. Donc c'est un double plaisir de vous recevoir.
Et pour moi c'est un double plaisir, parce que d'abord je parle directement à vos auditeurs, à votre public. Mais en plus, ma mère, qui habitait à Paris, faisait partie de votre public quand elle était en vie.
Alors, ah bon ? Vous faites partie des gens qui disent « quand j'étais petit, je vous entendais dans la voiture »
Non, parce que là, j'étais déjà adulte, mais quand même, quand je venais la voir, j'avais toujours Radio Shalom derrière qui était
magnifique.
On écoutait.
Quelle belle histoire, merci. Eh bien, écoutez, on est d'autant plus ravis de vous recevoir qu'on a le fils d'une auditrice fidèle. Et alors, je vais rappeler peut-être deux ou trois dates vous concernant pour vous présenter aux auditeurs. Joshua Zarka, vous avez pris vos fonctions d'ambassadeur d'Israël en France en mai 2024. Vous êtes resté quelques mois sans pouvoir parler, parce qu'il faut donner les lettres de créance. Il y a un protocole. Vous avez été directeur général adjoint pour les affaires stratégiques depuis juillet 2018. Vous avez occupé le poste de chef de bureau d'Amérique du Nord, de la division Amérique du Nord. J'ai sous les yeux le CV de l'ambassadeur. Il est tellement long que je vais arrêter. Alors, on va dire, pour résumer, on va dire deux choses. Vous êtes un diplomate, mais vous avez aussi occupé des fonctions importantes dans le domaine de la géostratégie. C'est un expert, hein, notamment le nucléaire.
Je suis fier aussi d'avoir fait partie de ceux qui ont, pendant de longues années, œuvré pour la paix. Et je me suis occupé du développement des relations avec les pays du Golfe bien avant les accords d'Abraham.
Très bien. Alors donc, on a vraiment un expert, ce dont on ne doutait pas. Par ailleurs, j'ai remarqué, en regardant ce fameux CV, que vous avez une licence en économie de l'Université hébraïque de Jérusalem. Donc, vous avez passé le Mavo les Calcala, ce qui fait de,
exactement.
Ce qui fait de vous une star pour moi.
Celui vous
qui passe
là.
Le Mavo les Calcala, je peux dire, il est bon. Bref, vous venez dans un moment vraiment fort en actualité. Ça l'est toujours avec l'Israël, mais il se trouve qu'on n'a pas fait exprès. Et que Emmanuel Macron a annoncé sur X, il y a quelques heures seulement, qu'il vient de s'entretenir avec Benjamin Netanyahou. Et là, il nous donne quelques éléments de feuille de route, c'est-à-dire sur ce qu'il veut faire. Chose que, par ailleurs, j'imagine, vous saviez déjà. D'abord, déjà, la première chose, c'est que si les deux hommes se sont parlé, on ne peut pas ignorer que ça vient après le dérapage de Yair Netanyahou, qui a utilisé des mots très forts, je les ai vus en anglais. Il n'a pas dit « allez vous faire voir », hein. Il a dit « allez vous faire foutre ». Fils du Premier ministre israélien, j'imagine que tout journaliste dit « alors ils se sont parlé après ». Et parfois, on peut nous dire que non. Vous nous dites « oui, ils se sont parlé après ce... ».
Oui, mais ça n'avait rien à voir avec
ce qu'a écrit
Yair Netanyahou sur son compte X. Franchement, Yair Netanyahou est un citoyen israélien comme les autres. Il ne représente personne, il n'a pas été élu, donc je ne vois pas de raison pour laquelle je devrais en parler.
Oui, je me doutais bien que vous me diriez, mais je n'ai pas de commentaire à faire sur le fils du Premier ministre, je m'imaginais bien. Juste moi, je fais une petite précision en tant que journaliste, Yair Netanyahou, il représente quelque chose au Likoud. Il ne représente pas rien. Il a des électeurs, il a des gens... Il n'est pas élu. Bah, d'ailleurs, non seulement il n'est pas élu, mais on va être un peu grossier deux minutes. On a tous remarqué qu'il habite à Miami et qu'il se permet d'avoir des commentaires, alors que ceux de son génération sont ailleurs. J'ai presque du mal à le dire. Mais ceci nous amène à deux choses. Dans le fameux tweet du chef de l'État. La première, c'est qu'il dit qu'il espère, dans les prochaines heures, une réponse, une bonne nouvelle pour la libération des otages. Et j'ai l'impression qu'il fait référence au fait que le Hamas a dit peut-être 9 otages libérés dans les 48 heures. Est-ce que vous avez des informations à ce sujet? Qu'est-ce que vous avez envie de dire?
C'est un sujet très, très sensible, la question des négociations pour les otages. Ce que je peux dire, malheureusement, est simplement qu'il y a énormément d'efforts qui sont faits par le gouvernement israélien depuis assez longtemps pour libérer le plus de possible d'otages et le plus rapidement possible. Malheureusement, je ne peux pas rentrer dans les détails plus que ça, car effectivement, il y a des négociations et plus on en parle, moins c'est bien.
Et il faut absolument effectivement laisser les négociateurs pour que ces otages sortent le plus vite possible. Enfin bon, l'information qui avait été donnée dans les médias sourcés, hein, les médias sérieux, c'est 9 otages en échange de libération de prisonniers. Alors,
si vous vous rappelez,
ouais,
c'est plus ou moins ce dont Witkoff parlait à l'origine.
Oui, on disait 10. Et là, on parle de 45 jours de cessez-le-feu. La deuxième chose pour laquelle vous avez, vous, des informations en tant qu'ambassadeur d'Israël à Paris, c'est la proposition, l'initiative française pour la reconnaissance d'un État palestinien en juin. Et je vais déjà tout de suite vous demander si, d'après vous, c'est une initiative unilatérale. Parce que créer un État palestinien, il faut les Israéliens. C'est les Israéliens qui ont les clés, c'est les Israéliens qui tiennent énormément de choses. On ne peut pas faire un État palestinien sans Israël. Mais reconnaître un État palestinien, on peut le faire tout seul.
Je pense qu'il faut d'abord très bien lire ce que le président a dit. Et il faut surtout lire ce qu'il a dit ensuite, ce qu'il a publié sur X, surtout après cela, après sa première interview qu'il a donnée dans l'avion. D'abord, le président ne parle pas d'une reconnaissance, en tout cas dans ce qu'il a clarifié après l'interview, il ne parle pas d'une reconnaissance automatique de la France en juin. Il parle de créer des conditions. Quelles seraient les conditions qui pourraient être créées pour faire avancer le processus diplomatique de paix entre nous et les Palestiniens?
Il recule? C'est une reculade? Parce qu'au début, ce n'était pas ça. Au début, j'ai l'intention.
Je suis sûr que vous avez remarqué que j'avais donné une interview chez un de vos collègues immédiatement après l'interview qu'il avait donnée. C'est pas du tout en coordination. Ça n'a pas été fait en coordination avec Israël. Nous pensons très bien, très clairement, que parler aujourd'hui de la création d'un État palestinien concrètement est dangereux. Ça aurait un prix pour le terrorisme, ça aurait un prix pour le Hamas. Et le Hamas suit très bien les déclarations qui viennent de l'Occident et surtout d'un pays de l'importance comme la France. Et ça pourrait encourager le Hamas de continuer à combattre au lieu d'arrêter les combats. Et donc, je peux vous dire qu'aujourd'hui, on ne parle pas de la création ou bien de la reconnaissance d'un État palestinien. On parle en tout cas, le président parle de conditions. Des conditions qui seraient importantes de créer pour faire avancer le processus diplomatique.
Mais il n'y a pas que ça qu'on ne comprend pas. C'est qu'il parle d'une initiative avec l'Arabie Saoudite à New York en juin. Les Saoudiens, ils suivent plutôt les Américains. Et si ça se passe... Non ? Se passe à New York, à moins que ça se passe à l'ONU, il faut Trump.
Oui, mais d'abord, les Saoudiens ne suivent pas automatiquement les Américains. Secondo, l'initiative de cette conférence est saoudienne à l'origine, et le roi de l'Arabie Saoudite a demandé à la France de se joindre à l'initiative, d'après ce que je comprends. Et ensuite, nous n'avons pas encore ni les dates, ni les invités, ni la liste des invités, etc. à cette conférence, parce que peut-être c'est compliqué à concevoir. Mais le fait est que c'est une conférence qui a pour but de faire avancer la solution, disons, dans la solution du problème du conflit israélo-palestinien. Je ne peux pas vous dire que c'est quelque chose qui nous plaît en tant qu'Israël. Ce n'est pas quelque chose que nous voudrions voir se faire en juin, parce que d'abord, il y a les conditions qui sont destinées quoi, donc il y a des conditions qui doivent être créées avant de commencer même à parler de ce genre de choses. C'est d'abord mettre la fin au régime du Hamas à Gaza, complètement. Ensuite, commencer à réformer...
Il le dit dans son tweet.
Oui, il le dit dans son tweet. C'est pour ça qu'il faut bien lire ce qu'il a dit. Et ensuite, il faut réformer d'une façon très fondamentale l'autorité palestinienne. Il faut que la population palestinienne commence à accepter l'idée même de vivre en paix avec nous, ce qui n'est pas le cas. Vous savez qu'aujourd'hui, même 85% des Palestiniens de Judée-Samarie pensent que le 7 octobre était quelque chose qu'il faudrait refaire, de positif. Ce qui n'est pas le cas à Gaza, d'ailleurs. Ce qui n'est plus le cas à Gaza, mais même immédiatement après le 7 octobre, c'était seulement 78% des Gazaouis qui disaient que c'était positif et le reste disait que c'était négatif. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Alors donc, il faut commencer par une réforme très fondamentale de l'autorité palestinienne, de la population palestinienne. Vous savez, les pays arabes ont fait cette réforme. Aujourd'hui, dans les livres d'école saoudiens, dans les livres d'école émiratis, on parle d'Israël, on ne parle pas de l'entité sioniste, on parle d'Israël comme un pays qui existe au Moyen-Orient. Alors c'est par ça qu'il faut commencer. Les Palestiniens, encore apprendre les maths en tuant des Juifs.
Combien on peut tuer avec tant de fusils, etc.
Exactement. Et des temps que cela ne sera pas fondamentalement changé, on ne pourra pas vraiment de parler de création de conditions qui mèneront à la paix. Et c'est par cela qu'il faut commencer.
Mais vous, par exemple, en tant qu'ambassadeur, on vous appelle, on vous dit, voilà, on voudrait coordonner, est-ce que vous pensez qu'à Jérusalem ça passe ou non, il n'y a pas de coordination?
D'abord, le président et le premier ministre parlent assez régulièrement. Alors donc, bon, je suis sur la plupart de ces appels, mais encore, ça ne veut pas dire que c'est pas des appels qui ont pour but de coordonner, mais en tout cas pour comprendre exactement chaque côté, que chaque côté, ce que chaque côté trouve d'important ou d'autre.
Mmh. Les objectifs de guerre étaient 3 à l'origine, disons on va en garder 2 si on pense à ce qu'a dit le chef de la diplomatie israélienne Guy Densar, d'ailleurs dans vos locaux à l'ambassade à Paris, il a dit voilà, Hamas out, hostage back. Donc ça veut dire le Hamas, on en finit avec le Hamas, c'est ce que Benjamin Netanyahu appelle en finir avec la menace du Hamas, qu'on n'ait plus cette menace, qu'on n'ait plus à vivre avec cette menace, et le retour des otages. Mais oui. Il se trouve qu'on a un peu l'impression, d'ailleurs en tout cas c'est tous ceux qui signent des pétitions aujourd'hui, c'est pas tous des gens qui détestent l'armée, on a un peu l'impression que ça va pas forcément de pair. Et c'est ça le problème. C'est qu'on est parti un peu en conflit en disant, vous nous avez attaqué, on va aller chercher nos otages nous-mêmes. Oui. Mais là, c'est pas sûr que ça va de pair.
C'est pas que ça va pas de pair. Vous savez, il y a... C'est très humain de faire la critique à la maison. Mmh. Alors, pour les Israéliens qui veulent revoir la libération des otages immédiatement, c'est beaucoup plus simple de dire on va faire pression sur notre gouvernement plutôt que de dire on va faire pression sur le Hamas. Parce qu'ils ne peuvent pas faire pression sur le Hamas. La seule façon de faire pression sur le Hamas, c'est justement la pression militaire. Les buts ont toujours été et resteront la fin du régime du Hamas, que ce soit politique ou que ce soit militaire ou politique, et la libération des otages. Alors, je peux vous dire que historiquement, quand la guerre a commencé, il y avait 2 buts dans les 2-3 premiers jours. Il y avait 2 buts, parce que j'étais dans la cellule de crise au ministère des Affaires étrangères, c'était inscrit devant nos yeux. Les 2 premiers buts étaient, premièrement, la fin du régime du Hamas militaire, la fin de se débarrasser des capacités militaires du Hamas, de nous menacer, et secondement, de ne pas permettre au Hamas de gouverner à Gaza. C'est seulement après 2-3 jours qu'on a compris ce qui nous est arrivé dans le sud. Exactement le fait qu'on a eu 256 otages qui ont été pris par le Hamas et qu'après 2-3 jours, le troisième but a été ajouté. Et ce troisième but est devenu le premier. Très rapidement. Le retour de nos otages, si demain tous les otages revenaient en Israël, la guerre se terminerait immédiatement. Et c'est ça, c'est quelque chose que le Hamas peut comprendre, comprend. Et pour eux, ils craignent bien sûr qu'Israël continue.
Ben, si je peux pas être du Hamas par définition, mais imaginons que je fais un jeu de rôle 2 minutes. Si je suis un responsable du Hamas, je me dis, ils veulent à la fois ma destruction et les otages. Ben, je leur donne pas les otages, parce que sinon je suis terminé.
Ouais, mais il faut comprendre, vous savez, après le 7 octobre, il faut comprendre de façon très claire. Le Hamas ne peut plus exister à Gaza comme un acteur qui peut menacer Israël. Ça, c'est terminé. Ils ne peuvent plus exister. Ils ont fait l'inimaginable. Ils ont fait un acte qui est tellement terrible, qui est tellement inhumain, qu'ils n'ont plus le droit de continuer à exister en tant que force politique ou force militaire. C'est terminé. Les choses doivent changer d'une façon très catégorique et fondamentalement. Et pour cela, ils doivent disparaître. Pas physiquement, comme c'est pas qu'on cherche à les tuer tous, mais ils doivent disparaître comme force militaire. C'est ou bien ils baissent leurs armes, ou bien ils quittent. C'est ça, très simplement. Et ils ne pourront pas faire partie de la gouvernance de Gaza dans le jour d'après. Et ça, c'est le résultat immédiat du 7 octobre. On ne pourra pas se permettre d'avoir une force comme le Hamas qui sera à nos côtés, à nos portes. Parce que ce que nous voulons créer, c'est des conditions à long terme qui mèneront à la paix. Nous voulons créer vraiment des conditions dans lesquelles nous pourrons vivre à côté, auprès de nos voisins palestiniens.
Et pour cela, ceux qui habitent à Gaza ?
Bien sûr, bien sûr.
Votre préférence, c'est qu'ils partent ?
Si ceux qui veulent partir peuvent partir, il est clair que pas tous ne vont partir. Alors donc, il y aura des Palestiniens qui vivront à Gaza et ce ne sera pas Israël qui gérera Gaza. Alors donc, on devra vivre auprès de voisins palestiniens, qu'il y ait 1 million, qu'il y ait 2 millions, qu'il y ait 500 000, ou je ne sais pas exactement combien en fin de compte resteront. Le point est que nous voulons vivre avec les Palestiniens qui vivront à Gaza. Et nous voulons vivre en paix auprès d'eux. Et pour cela, la condition de base, c'est que le Hamas ne soit pas présent parce que le Hamas a prouvé qu'il n'était pas d'accord, il n'était pas prêt à vivre en paix auprès de nous. Et si vous vous rappelez, les déclarations des dirigeants du Hamas, jusqu'à il n'y a pas encore longtemps, hein, qui disent que s'ils auront l'occasion de le refaire, ils referont un 7 octobre. Alors oui. Donc, c'est une chance qu'on ne peut pas prendre.
Ou même en France, risque que nous pouvons pas prendre. Rima Hassan qui dit pourquoi on va se contenter d'un peu alors qu'on veut tout.
Je ne parle pas d'elle. Hein.
Alors, ah oui C'est pourquoi c'est, parce que c'est désespérant.
Non, il n'y a rien à dire à ce sujet.
Monsieur l'ambassadeur d'Israël en France, Joshua Zarqa, on se retrouve dans un instant. Et on se retrouve pour la deuxième partie de notre entretien avec Joshua Zarqa, l'ambassadeur d'Israël en France. Alors, il y a vraiment un point que je ne comprends pas depuis maintenant un an et demi, c'est quelle est la situation d'Israël, et ça c'est votre expertise. On a deux possibilités, je reprends ce qu'on vient de dire, il y a deux écoles. La première, c'est qu'Israël n'a jamais été aussi fort. Nasrallah est mort, Sinwar est mort, le régime syrien de toute la famille Baas s'est effondrée. L'Iran a essayé de nous attaquer à deux reprises. À deux reprises, ils ont pris, excusez-moi d'être un peu populaire, ils ont pris une raclée. Israël n'a jamais été aussi fort. Trump est au pouvoir à la Maison-Blanche. Jamais Israël, le Liban. Mais par exemple, je vois le nouveau premier ministre du Canada qui dit « Oui, oui, je sais qu'il y a un génocide à Gaza et je déclare l'embargo. » Je vois que, je ne sais pas, de simples jeunes qui font des études à Tel Aviv peuvent pas discuter sur Instagram avec d'autres jeunes. Pourquoi on a fait un pays pour qu'ils puissent pour vivre. Alors, c'est quoi la situation d'après vous, vous avec votre expérience, vous en tant qu'ambassadeur, ça n'a jamais été aussi mieux, aussi bien, pardon, par mon français, ou ça n'a jamais été aussi mal.
Bon, on peut dire les deux en même temps. Hein.
Ouais.
Ouais. Au niveau stratégique, quand on regarde la menace à laquelle nous faisons face aujourd'hui. La menace, disons, existentielle, elle n'a jamais été aussi basse. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de force autour de nous qui peut vouloir ou essayer de vouloir nous détruire, en ayant les capacités. Le 6 octobre, les Iraniens avaient une architecture de proxy autour de nous qui nous entourait complètement et qui était armée jusqu'aux dents. Et ils avaient aussi un programme nucléaire très avancé, ils avaient des programmes balistiques très avancés, ils avaient des défenses aériennes stratégiques très avancées, et aujourd'hui, ils n'ont plus rien de tout cela. Presque plus rien de tout cela. L'architecture des proxys qu'ils avaient créés autour de nous s'est effondrée. Bon, c'est vrai que tous n'ont pas complètement disparu, mais tous ne peuvent plus vraiment nous menacer comme ils le pouvaient le 6 octobre. 6 octobre 2023, bien sûr. Secondo, après les deux attaques dont vous venez de parler, les deux échanges que nous avons fait avec l'Iran, ils n'ont plus de capacité de défense aérienne, de défense stratégique aérienne. Donc, si jamais ils pensaient à nous attaquer encore une fois, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas se défendre. Et en plus, nous avons aussi touché des endroits dans lesquels ils produisaient certaines parties de leur système balistique. Et donc, aujourd'hui, ils sont vraiment dans une situation de faiblesse qui n'a pas de précédent, en tout cas depuis les 30 dernières années. Alors donc, au niveau stratégique, nous sommes dans la meilleure situation dans laquelle nous nous trouvions depuis au moins 30 ans. Par contre, le 7 octobre, ce que nous avons découvert, en tout cas ce que nous avons découvert en Israël que nous ne connaissions pas comme nous l'avons découvert, c'est l'antisémitisme pur.
L'intensité de haine. Une telle intensité, je ne pouvais pas imaginer.
Personne d'entre nous ne pouvait imaginer.
Non.
Le 7 octobre, le jour où notre sang coulait encore, on n'était pas en train de lécher nos blessures, notre sang coulait encore, il manifestait dans les rues de New York, de Paris, de Londres, de Sydney, d'Ottawa, etc., en criant mort aux Juifs. C'était pas un résultat de ce que nous avons fait. C'était le résultat de l'antisémitisme pur, de cette haine du juif parce qu'il est juif. Et ça ne s'est pas réglé. Et ça ne va pas se régler parce que c'est le résultat de je dirais presque de millénaires d'éducation à la haine du juif. Ça peut changer. Mais pour cela, il faut vraiment réformer beaucoup de systèmes et combattre l'antisémitisme, non seulement en Europe, mais partout. Et c'est le rôle des gouvernements. Alors d'un côté, au niveau stratégique, il y a une menace, un niveau de menace qui est le plus bas depuis 30 ans, en tout cas depuis le jour où je suis rentré dans la diplomatie israélienne. Et d'un autre, il y a un niveau d'antisémitisme qui est le plus haut depuis la Deuxième Guerre mondiale. Alors c'est vraiment d'un côté la meilleure situation, de l'autre dans la pire.
Il peut y arriver aussi une autre situation qui s'empire, excusez-moi de vous dire ça, c'est ce qui est arrivé aux Américains en Irak. Ils ont connu la victoire militaire que vous venez de décrire. Et puis, un an passe, deux ans passe, trois. Et il se rend compte que finalement, c'est pas si gagné que ça. Et quand on a eu le nouveau régime en Syrie, on s'est dit, ah voilà, une opportunité. Ben, on voit que c'est pas sûr. Quand Nasrallah s'est effondré, on voit qu'aujourd'hui, les armes, peut-être qu'elles passent même par le port de Beyrouth. On voit, dans le monde arabe, c'est comme ça. Ça repousse constamment. Est-ce que vous êtes inquiet de ça ?
Bien sûr. C'est pas que nous pouvons maintenant nous reposer, aller prendre un café et penser que tout va bien se passer. Israël va devoir continuer à combattre pour sa sécurité et va devoir continuer à combattre pour sa sûreté. Il n'y a rien à faire. Vous savez, hein, on a dit ça il y a quelques jours pendant le CEDER, chaque génération, il y a ceux qui essaient de nous détruire et on continuera à les combattre. Et on continuera à les combattre. Ça ne veut pas dire que nous sommes dans une situation qui est pire que ce qu'elle était auparavant. Bien non, bien sûr que non. Mais c'est clair que ils vont pas joindre du jour au lendemain l'organisation sioniste mondiale.
Ouais. Mais on voit que les Émirats changent. On voit que le Maroc a maintenu la paix pendant la guerre.
Voilà, c'est pas seulement c'est le Maroc, c'est les Émirats, c'est le Bahreïn, c'est les pays des accords d'Abraham, mais c'est des pays avec lesquels les bases de des relations avaient été créées d'une façon, les fondations de ces relations avaient été créées d'une façon stable. Et c'est justement, vous savez, quand je parlais plutôt de la réforme que doit faire l'autorité palestinienne et les Palestiniens dans leur éducation, eux l'ont fait. Les pays arabes ont réformé le système scolaire. Et dans les livres de système scolaire dans ces pays, on ne parle plus de l'entité sioniste. On parle d'Israël comme un pays qui a le droit d'exister dans la région. On parle d'Israël comme un pays avec lequel on est en paix. Et c'est ça qu'il faut faire, que doivent faire les Palestiniens pour commencer justement cette réforme qui mènera un jour à la paix et qui mènera un jour à un changement de valeur dans cette société. Parce qu'aujourd'hui, les valeurs de la société palestinienne, c'est terrible à dire, hein, mais les valeurs sont celles de la mort. Et ce qu'il faut pour créer cette paix, c'est qu'il y ait des valeurs de paix et les valeurs de vie. Et pour cela, ils doivent réformer entièrement leur système scolaire. C'est faisable. Ils auront besoin de la communauté internationale, ils auront besoin de l'aide, par exemple, de ces pays arabes qui ont fait justement cette réforme. Et ils auront besoin aussi de pays comme la France, à les aider, à les forcer même à faire cette réforme.
Une dernière question, puisque notre entretien touche à sa fin, et là encore, vous êtes l'un des meilleurs pour nous répondre. Sur le nucléaire iranien, je ne crois pas, si je ne m'abuse, comme on dit, vous avez aussi discuté sur ce dossier, vraiment... concrètement, le nucléaire iranien, comment vous voyez les choses?
C'est effectivement...
C'est votre domaine.
C'est mon domaine. Je dirais qu'il y a encore une petite chance pour la diplomatie de réussir à résoudre ce problème. C'est-à-dire, Israël a dit d'une façon très claire, elle a redit, et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est dit aussi, qui a été annoncé par le président Trump, et je pense que à ce sujet, il y a très peu de pays qui ne sont pas alignés avec Israël. Et c'est que Israël ne permettra jamais à l'Iran d'avoir l'arme nucléaire qui pourrait nous menacer. Vous savez, quand un pays comme les Iraniens, comme l'Iran, qui a l'intention de nous détruire, développe les capacités de le faire, on est obligé, avec notre histoire du peuple juif, de l'empêcher de le faire. Alors, quoi qu'il arrive, nous l'empêcherons de le faire. Il reste très peu de temps pour trouver une solution diplomatique. Nous sommes encore dans cette période où une diplomatique peut être trouvée. Et la seule raison pour laquelle il y a une chance, c'est que justement les Iraniens sont plus faibles qu'ils ne l'ont jamais été. C'est parce qu'ils comprennent que l'alternative à une solution diplomatique dans laquelle ils n'essaieraient plus de façon claire et nette de développer l'arme nucléaire, l'alternative est terrible pour eux. Et donc, il serait préférable qu'ils trouvent une solution
mais
qui serait acceptable.
Mais vous ne prononcez pas les mots parce que vous êtes un diplomate chevronné, mais tout ça, tous ces morts, tout ce massacre du 7 octobre, tous ces jeunes Israéliens qui sont revenus avec une jambe en moins, et vous n'allez pas jusqu'à Téhéran ? Téhéran, c'est l'affaire de toute la vie de Netanyahou.
Je vous remarquez qu'on est allé jusqu'à Téhéran plus d'une fois.
Oui, même au sol.
Sans rentrer dans les détails. Ensuite, je disais d'une façon très claire, Téhéran, sans le soutien iranien, le 7 octobre n'aurait pas eu lieu, le Hezbollah n'aurait pas existé, les Bachar el-Assad aurait disparu depuis très longtemps et toute la région serait une région pacifiée. Alors, bien, clairement, Téhéran est au centre de tout le problème. Ensuite, j'ajoute, une solution complète et permanente du problème iranien qui, Israël, nous satisferait, la situation ne se calmera pas. Pour que nous soyons satisfaits, les Israéliens comprennent et savent exactement ce que nous devons faire. Et je pense qu'aujourd'hui, suite aux deux, disons, tours de violence entre nous et eux, qui ont eu lieu après leurs deux attaques, ils comprennent aussi que l'alternative serait terrible.
Ok, c'est le journaliste qui va le dire, c'est ça, où on attaque, et les Israéliens préfèrent que ce soit avec les Américains. C'est moi qui parle. Alors, il se trouve que vous êtes... que vous connaissez très bien la France, vous y êtes né, hein?
Oui.
Vous êtes né en France, à Thiers.
À la Pitié.
Ah bon?
Je suis né à Paris, dans Paris 13e, et j'ai grandi à Thiers.
Alors là, les beaux jours reviennent, et j'ai noté sur un bout de feuille, hein, regardez, je vois, quelques mots, et je vais vous demander lequel vous préférez. Roland Garros, avec le soleil, hein,
oui.
Les quais de Seine, le parc Monceau, Saint-Germain, les deux magots, ou le drugstore Publicis?
Quand j'ai grandi à Thiers, comme vous le disiez, et chaque mercredi, j'allais avec ma mère apprendre de l'hébreu quand j'étais gosse.
Mmh. Il n'y avait pas d'acrobranche à l'époque à Thiers ?
Non. Et ma mère travaillait à Lozé. Et donc, pour aller, j'allais la rencontrer, on prenait le train ensemble. Et pour aller de là où elle travaillait jusqu'à la synagogue où j'apprenais l'hébreu, c'est la synagogue Copernic, on faisait le chemin à pied, on passait par le parc Monceau.
Ah bon ?
C'est le parc Monceau qui gagne.
Et en ce moment, je ne sais pas si vous êtes retourné, vous avez raison.
J'y étais une semaine, il est magnifique.
Pendant la fête de Pessah, il y avait plein de gens qui mangeaient sur place, c'était magnifique. Eh bien, vous avez fait le déplacement pour présenter vos vœux aux auditeurs de Radio Shalom. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Là, c'est plus à moi de vous parler.
C'est toujours paix. Paix d'abord et avant tout. Sécurité. Et...
avec un beau badge sur votre costume qui nous rappelle qu'on pense aussi aux otages.
Toujours, mais ça, si Dieu veut, ça arrivera plutôt que plutôt que plus
tard. Monsieur l'ambassadeur Joshua Zarka, merci d'être venu nous voir dans les studios de Radio Shalom. Bonsoir à vous.
Merci à vous.
Sur votre téléphone portable, retrouvez-nous en téléchargeant l'application Radio Shalom ou en cliquant sur radioshalom.fr.